Achtung, hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Les yeux ont des oreilles pour ce 53e épisode. Nous vous proposons toutes les deux semaines une traversée de textes de mise en voix et de création sonore autour de grandes thématiques que vous pourrez découvrir sur le site de Transistor. Aujourd'hui, moment un peu spécial puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la tant célébrée et si rocambolesque Journée de la radio, JDR pour les intimes. Pour l'occasion, l'équipe des yeux ont des oreilles, Guillaume, Avril Dystopie et moi-même, vous a donc concocté un épisode aux petits oignons consacré à, oh surprise des surprises, la radio. Et surprise des surprises si surprenantes, ce n'est non pas un épisode, mais deux épisodes qui sont aujourd'hui consacrés à la journée de la radio. Un premier au sujet de la radio, un deuxième vous proposant la lecture d'un chapitre intégral d'un texte n'ayant, ma foi, aucun rapport, aucun traître rapport avec la radio, mais qu'il nous faisait plaisir de vous présenter, alors là. Pour ce premier épisode, donc, 4 textes, 2 essais, 2 récits. Les premiers mots, d'abord, à Jean Tardieu, qui dans Sortilège de la mise en onde faisait en 1954 du réalisateur de radio un magicien de l'impalpable, et que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir. Un réalisateur de radio que nous retrouverons ensuite mis en scène dans Le Monde à côté, de Driss Schreiby, dont la douce voix de Guillaume vous fera entendre les ondes. Nous aborderons ensuite les auditeurs, oui, vous, auditeurs, mis en scène en 2 textes, un essai mis en voix par moi-même, un récit par Avril Dystopie. L'adaptation ou le cinéma comme digeste, tout d'abord, où André Bazin soutient comment la radio permet à l'homme moderne de vivre dans un milieu sonore comme dans la tiédeur de son chauffage central et créer une culture atmosphérique omniprésente comme l'humidité de l'air. Enfin, un chapitre du premier tome de Vernon Subutex de Virginie Despentes, dont le personnage principal se fait soudain auditeur de radio et que Avril Dystopie se fera un plaisir de vous faire découvrir. À vous, donc, auditeurs, mais aussi à vous, camarades metteurs en ondes, comme le dit si bien Tardieu, nous vous souhaitons une belle écoute et vous laissons tout à vos yeux et surtout vos oreilles. Jean Tardieu, Sortilège de la mise en onde, extrait. L'art de la mise en onde est l'un des plus attachants et des plus singuliers qui soit. Le réalisateur ou metteur en onde est en quelque sorte un magicien de l'impalpable, car enfin les personnages et les objets auxquels il donne vie, je parle surtout des pièces radiophoniques, ne sont pas, comme au théâtre, perçus dans la quasi-totalité de leur existence sensible par le concours de la vue et de l'ouïe. Ils n'ont même pas ce minimum d'existence visible qui tient sur la surface d'un écran de cinéma ou de télévision. Ils sont tout entiers contenus dans une vibration sonore qui s'évanouit dans l'air au fur et à mesure qu'elle s'y déroule.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Driss Schreiby.
Mon réalisateur, Georges Godebert, me réclamait à corps et à cri. Je ne pouvais pas continuer de la sorte à lui expédier mes textes par la poste. Ma présence était indispensable au studio pour le choix des comédiens, le générique, le thème des enchaînements des séquences, les changements au volet, d'autant plus qu'il s'agissait de la série « Résonance spirituelle » qu'on ne pouvait pas réaliser comme une dramatique ou un feuilleton. Godebert était très perfectionniste, de l'essai de voix au mixage et au montage. Je l'avais vu et entendu travailler, il avait réservé des tranches de studio et il était à la bourre. Avant d'en discuter avec Catherine, je savais que j'allais me rendre à Paris, sans plus tarder. La radio était devenue ma passion. Rédiger un livre était une entreprise solitaire, face à une feuille blanche. Enregistrer une émission exigeait un travail d'équipe qui me forcerait malgré moi à sortir de ma coquille. La décision que je pris changea le cours de ma vie. La radio avait ses lois, la parole, le bruitage, la musique et le silence, en osmose et en symbiose. Et il y avait la respiration entre certaines phrases, voire entre deux mots, mais pas n'importe lesquels. La couleur de l'ambiance, jour ou nuit, le rythme du phrasé et le mouvement du texte. Il fallait éviter les temps morts, les redites, les tirades surtout. Ces longs tunnels où le comédien s'engageait pour en faire des morceaux de bravoure et s'écoutait parler comme s'il était seul sur scène. Il n'y avait pas de scène, pas de public, pas d'applaudissements. Juste un micro devant lequel se trouvait l'acteur ou l'actrice pour traduire les émotions et les résonances de ces émotions uniquement par la voix. Souvent, nous ne voyions que le dos de l'interprète qui ne pouvait rien voir de nos réactions dans la cabine. Le réalisateur m'interrogeait du regard, appuyé sur un bouton de la console, disait « C'est bien mes enfants, autant pour nous, on va reprendre cette scène. » 10 fois, 20 fois, on remettait l'ouvrage sur le métier. On usait de diplomatie pour ménager les susceptibilités. Et les susceptibilités étaient grandes, multiformes, d'ordre professionnel et privé. L'assistante de production nous était d'un grand secours. Argus ambulant, pipelette, elle connaissait la vie et le parcours professionnel de tout un chacun. C'était elle qui convoquait les comédiens en connaissance de cause. Un tel ne devait pas être dans la même distribution qu'une telle, parce qu'elle avait été sa petite amie et l'avait lâchée, ou l'inverse, ou parce que celui-là avait soufflé la vedette à celui-ci. Mais ils s'aimaient tous dès qu'ils se retrouvaient au studio, s'embrassaient le plus civilement du monde, se congratulaient mutuellement pour leur succès. Le plus dur était d'écrire et de mesurer avec circonspection les lignes qu'ils avaient à interpréter. Plus dur encore de les inciter à lire toute la brochure et non les répliques qu'ils se mettaient en bouche, et elles seules. C'est pourquoi le réalisateur, l'ingénieur du son et moi, nous instituâmes des répétitions générales avant l'enregistrement et ne commencions le travail, proprement dit, que 2 ou 3 jours plus tard. Le temps qu'il se pénètre du texte en entier et considère qu'il ne s'agissait pas uniquement de monologues croisés. Une fois à l'œuvre, ils étaient parfaits et nous évitions la plupart de ces reprises qui mettaient à cran les techniciens. Le jeu tout en nuances de Michel Bouquet pouvait matérialiser de visu ce que seule l'oreille entendait. Jean Topard faisait chanter les inflexions de sa voix. Celle d'Annie Sinigalia était un rire communicatif. Jean-Roger Cossimon puisait la sienne à la source du poème. Charles Vanel était littéralement le vieil homme et la mère. Et Pierre Vanek, Bernadette Lafont, Pierre Trabot. Oui, j'avais plaisir à travailler avec eux. J'étais à leur écoute. Des années plus tard, une résonance se répercuta dans la mer du printemps. Maintenant encore, Irma croit à la magie de la voix humaine. Elle peut tout faire, assombrir le ciel ou faire manger un daim dans le creux de la main. Tout dépend des sons qui montent du cœur aux lèvres.
André Bazin, l'adaptation ou le cinéma comme digeste. Extrait. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas de la même façon. Le problème de l'adaptation au public apparaît plus nettement encore dans le cas de la radio. Celle-ci, en effet, n'est presque pas un art comme le cinéma, mais d'abord et par-dessus tout, un moyen de reproduction et de diffusion. Le phénomène digestif ne réside qu'assez peu dans la condensation ou la simplification des œuvres, mais dans leur mode de consommation. L'intérêt culturel de la radio tient précisément dans ce qui effraie M. Duhamel. Elle permet à l'homme moderne de vivre dans un milieu sonore comme dans la tiédeur de son chauffage central. Pour ma part, et bien que je n'ai un poste que depuis un an, j'éprouve le besoin de le brancher dès que je suis chez moi. Il m'arrive bien souvent d'écrire et de travailler avec la radio. En cet instant même, j'écoute en écrivant cet article l'excellente émission quotidienne et matinale de Jean Vitold sur les grands musiciens. Tout à l'heure, tandis que je me rasais, Jean Rostand, jonglant avec les chromosomes, m'a appris pourquoi les chattes seules ont le privilège de pouvoir être simultanément de trois couleurs, à moins que ce ne soit les chats, et je ne sais plus qui m'a expliqué pendant que je prenais mon café comment les Aztèques sculptaient par simple frottement avec du sable ces extraordinaires masques de quartz poli que l'on peut voir au musée de l'Homme. Le sinistre canular de M. Jules Romain sur la vision extra-oculaire se trouve sérieusement réalisé par la radio. La radio a créé une culture atmosphérique omniprésente comme l'humidité de l'air. Pour l'étonnant de la culture par le plus grand effort, la facilité d'accès physique aux œuvres permises par la radio n'est pas moins contraire à leur nature que les atteintes à leur forme. Même bien et intégralement exécutée à la radio, la 5e symphonie écoutée en prenant son bain n'est plus l'œuvre de Beethoven. Il faudrait à la musique la messe du concert, le sacrement du recueillement. Il est vrai qu'on peut aussi bien y voir une mise à la portée de tous de la culture. Portée physique d'abord, qui est la condition de l'autre, la radio, c'est le confort moderne de la culture à tous les étages. Elle représente un gain de temps et d'effort qui est le signe même de notre époque. Monsieur Duhamel doit bien prendre comme tout le monde des taxis pour aller au concert. Virginie Despentes, Vernon Subutex, tome 1.
Xavier pousse la porte du bar et s'installe au comptoir. Il ne salue personne et ne s'interrompt pas. Vernon a vu des dizaines de clients agités de cette logorée, typique de quand on se sent obligé de meubler la conversation sans jamais s'arrêter, sous peine d'être confronté à des idées si angoissantes qu'elles pourraient vous dissoudre entièrement. L'ancien mauvais garçon, devenu grand bavard, ressemble à un enfant qui moulinerait du sabre dans l'espoir de dissuader les mauvaises idées de l'approcher. Il en a lourd sur le cœur et il parle comme on court. Vernon ne voit aucune objection à être un récepteur passif. Il n'a pas passé une soirée dans un bar depuis des mois. Il avait oublié le plaisir que c'est, lever le coude au comptoir. Quand on picole tout seul chez soi, c'est difficile de se dire qu'on a l'alcool festif, qu'on est un bon vivant. On est forcément confronté à l'aspect un peu glauque de ce qu'on recherche. Ils enquillent verre sur verre et Vernon est dans son élément. Il aime le bruit, les corps qui passent d'une table à l'autre, les éclats de rire, la musique flamenco qu'il n'aurait jamais écouté chez lui, les odeurs d'alcool froid, de parfum et de produits vaisselle. Il y a au fond de la salle une petite brune qui le regarde, de loin, c'est comme une danse, une drague du bout des cils, en faisant autre chose, un intérêt flottant et persistant. Elle a de jolis yeux clairs, les pommettes hautes et la peau blanche. Un tatouage de branches fleuries lui monte dans le cou, qui en souligne la délicatesse. Il surveille la petite en espérant qu'elle se lève et sorte fumer une clope. Xavier, en fond sonore, ne se tait que pour vider son verre.
« Moi, les PD, je m'en bats les couilles. Tu vois les deux derrière le comptoir? Le grand noir efféminé et la petite pédale rebeu. À Belleville, se promener comme ça, je respecte. Je peux pas te dire le contraire. Main dans la main, tous les deux. Des fois, tu les croises. C'est comme la Russe, la fémène qui est tout le temps à poil. Remarque, les Russes, on n'est pas surpris. Quand elles sont pas putes, elles font du X. Moi, tant qu'elles montent leur sein, je ne vais pas protester. En pleine goutte d'or, à brailler que les voilées doivent se foutre à poil. Ok, meuf, t'as des couilles. Respect. Non, moi, ce que j'aimerais fracasser, c'est les mecs qui jouent les mecs, alors qu'ils sont vraiment des fiottes. Ceux qui jouent le rôle du viril, par exemple, dans les couloirs de Canal+, ou à Cannes, les bad boys de salon. T'écartes ton cul chez le producteur, arrête de jouer les durs. Si tu savais comment je paye, moi, parce que je refuse de faire le larbin. En France, c'est une erreur d'être scénariste. Les réalisateurs espèrent tous que leur petit truc passera à la télé et ils n'ont pas envie de partager les droits CACD. Cinéma d'auteur, mon cul. Cinéma de sangsue, oui. Ils ne savent pas écrire une ligne. Ils n'ont pas ouvert un livre depuis le bac français. Mais l'argent du scénario, pas question qu'ils passent à côté. Il faut les voir toucher 100 000 boules pour faire un film et courir chercher l'intermittence. Et ne t'en fais pas que quand il faut retoucher 100 000 euros parce que le machin passe à la télé, ils n'appellent personne pour redistribuer tout ça. Mais ils sont tous de gauche, bien entendu. Ça va leur passer, ça. Tout le monde se tourne dans le sens de la gamelle, c'est pas compliqué. Maintenant qu'ils comprennent que, bientôt, les subventions viendront de l'extrême droite, je te parie tout ce que tu veux, qu'ils vont changer de ton. Ça retourne sa veste avec souplesse, tout ça. Donne-leur 4 ou 5 ans, et les mêmes qui jouent du violon sur les pauvres sans-papiers te pondront des chefs-d'œuvre sur le banquier juif, le voleur rom et la Russe cupide. Ils s'adapteront. Je n'en fais pas pour eux. Marie-Ange déteste que je rentre bourré. Faut dire, bourré, je suis chiant. Moi-même, je me fatigue. Passé un certain âge, la baston dans les bars, ça va. Marie-Ange, jamais je ne l'ai trompée. Jamais. Les choses ont la valeur qu'on leur donne. Je ne trahis pas la mère de ma fille ni la femme que j'ai épousée. C'est une bonne mère. Elle est droite, régulière, responsable. Je peux crever demain. La petite est entre de bonnes mains. Marque mes mots. Le plus important, c'est la mère. Il ne faut pas faire des enfants avec une meuf sous prétexte qu'elle te fait bander. Ton gamin, sa mère a de bonibar, ça n'avance pas grand-chose. Elle est comment, ta canadienne? Elle veut des mômes? Si c'est une meuf droite, vas-y, fonce. Je n'ai jamais rien connu d'aussi doux que la tête de ma petite qui s'endort contre mon épaule. On n'a plus 20 ans. Il faut construire. Aujourd'hui, comme dirait Taïluk, mon avenir est derrière moi. Parlons de la souris. Tu me dis que tu revoyais Alex. Ce mec aura été grotesque jusqu'au jour de sa mort.
Ça m'a fait un choc. Je le voyais encore, ouais.
À Québec?
Il est venu jouer, plusieurs fois. Il est très populaire au Canada.
Sauf ton respect, les Canadiens ont un goût de chiottes. Franchement, de nous tous, que ce soit Alex qui a réussi à s'imposer pour son art, il était le moins doué, le moins sincère.
Mais il était beau gosse.
C'était un gros noir, ouais. On dira ce qu'on voudra. La femelle blanche est toujours conquise à l'idée de se faire gangbanger par les lions indomptables du Cameroun.
Il n'était pas camerounais, Alex, si?
Il était noir. C'était un con. Quel con c'était.
Justement, je me demandais si dans tes potes réalisateurs, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui voudrait faire un documentaire sur lui. J'ai 4 heures d'auto-interview filmée qu'il a laissé chez moi. Je ne sais pas quoi en faire. Je me demande si je ne pourrais pas en tirer quelque chose.
Un documentaire sur ce taré de chanteur à bobo? Je ne crois pas avoir ça dans mon carnet d'adresses. Tu voudrais les vendre?
Si ça intéresse quelqu'un.
Qu'il crève en enfer, ce gros con.
Sur ces mots, Xavier, plus bourré que son élocution ne l'annonçait, croque dans son verre à pleines dents. Il recrache les éclats blancs dans un mince filet de sang et regarde méchamment dans le vide. Ses yeux sont incapables de se fixer sur un point précis. C'est tout un cirque ensuite pour l'aider à retrouver sa carte bleue. Les deux barmen sont blasés. Il faut croire qu'ils l'ont déjà vu à l'œuvre et savent que ça n'ira pas plus loin. Vernon est contrarié. Il serait bien resté plus longtemps. Il aurait voulu parler avec la petite qui n'a pas arrêté de le regarder. Il aurait voulu discuter avec le mec assis seul à l'autre bout du comptoir, qui porte un bonnet orange fluo. Il aurait aimé profiter de cette soirée. Seulement Xavier l'a cramponné, sans prêter la moindre attention aux gens qui les entouraient. Il faut le soutenir pour traverser la rue. Il a toujours été comme ça, le gros. Sensible et délicat. Dès qu'il s'extériorise, il est incontrôlable. Ce con fait facile 100 kilos, Vernon se détruit le dos en lui servant de tuteur jusqu'à le mettre dans l'ascenseur. La famille part aux aurores, leur avion décolle tôt. Vernon doit se lever et faire bonne figure, en caleçon et t-shirt fatigué, comme si sous son crâne ne résonnaient pas toutes les cloches de l'apocalypse. Tandis que Marie-Ange détaille, ligne après ligne, l'interminable liste qu'elle a rédigée à son intention, d'une écriture soigneuse et serrée, des choses à faire pour s'occuper de la chienne. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'animal mange à heure fixe. Un savant mélange de légumes frais, croquettes, viande blanche et pâtés bio. Il faut la sortir 4 fois par jour selon un protocole très strict, car la balade du soir n'a pas le même itinéraire que celle du matin, etc. La chienne s'appelle Colette. Vernon se retient de ne pas rigoler en apprenant ça. À côté des valises, elle surveille les préparatifs du départ d'un œil triste. Xavier tient sa fille endormie contre lui. Il supporte sa gueule de bois dans le silence et l'héroïsme. Puis la porte claque, et Vernon patiente quelques minutes pour s'assurer qu'ils n'ont rien oublié, avant de se précipiter dans la cuisine. Il est affamé. Vernon cède à la tentation du jus d'orange frais et le regrette aussitôt. C'était un choix contre-intuitif que son estomac éprouve. Il se rabat sur le fromage, se taille un gros morceau de comté qu'il dévore debout, en continuant d'inspecter les victuailles. Le poulet élevé en plein air et nourri au bon grain. Avant de partir, Marie-Ange l'a prévenu qu'il était à la limite, lui a conseillé de le préparer, mais de ne pas donner les os à Colette, surtout pas, mais la chair ou de la peau. Elle adore ça. Bien sûr, il va donner ce petit poulet à 19 euros à la chienne. C'est écrit dessus. 19 euros. Les enculés. Et les yaourts sveltes au chocolat qui ne font pas prendre un gramme. Et les petits kiris. Il n'y a pas une sous-marque là-dedans, et le miel de châtaigne. Et il voit le prix sur une bouteille en verre de jus de cranberry. 12,80 €. Vernon termine le compté. La chienne est assise à ses pieds, patiente et attentive. T'es pot de colle, toi. Elle incline la tête en l'écoutant. Il finit par comprendre qu'elle veut du fromage. Il lui donne toute la croûte, en espérant que ça ne la rende pas malade. Content d'avoir capté ce qu'elle attendait, il la caresse pour la première fois. Puis il retourne se coucher. La chienne grimpe sur le sofa et s'endort en ronflant en 2 secondes. Vernon a pour habitude d'exercer un contrôle assez solide sur ses pensées. L'âme est un navire imposant, qu'il faut manœuvrer avec prudence. Il y arrive assez bien, il n'est pas un gars à se laisser surprendre par un écueil à la dernière minute. Mais quelque chose est fragilisé. C'est le silence, ou le confort. Il doit faire un effort pour ne pas céder à la tentation masochiste de l'auto-apitoiement. Il se répète qu'il a de la chance dans sa débâcle. Il a de nombreux amis. Ce plan de dog-sitting était inespéré. L'appartement est grand, agréable, il va pouvoir regarder des films tout le week-end en se remplissant la panse. Mais il sent, distinctement, se profiler quelque chose de lourd qui lui appuie dans la poitrine. S'il était chez lui, il ferait du rangement. Il a toujours été le roi du classement. Il doit éviter à tout prix toute pensée qui commence par « si j'étais chez moi ». Mais les mots vont plus vite que sa volonté. Un coup de tonnerre, bref, au thorax, une déchirure, suivie d'un goût âcre de cendre qui ne doit rien à la gueule de bois. Il ouvre une bière et fait le tour du propriétaire. C'est une maison de patents, avec plein d'objets inutiles dedans, des choses qu'il n'imaginerait pas acquérir. Xavier a tout compris à la vie. Il lui faut trouver une meuf qui ait de l'argent. Avant, ils étaient jeunes, ils voulaient des guerrières, des bêtes de sexe, des meufs bâties comme des créatures de rêve, ils voulaient du rock'n'roll et des chiennasses qui ne pensent qu'à ça, ils voulaient des bombasses, des pécheresses averties et des amazones qu'on soumet aux pieux. On s'en fout de tout ça en vieillissant. L'important, il a mis du temps à s'en rendre compte, c'est une meuf livrée avec un appartement comme celui-ci, des week-ends prolongés au soleil et l'état du frigo qui va avec. Puis Vernon s'assoupit devant la télé. Paris, Texas en VF, comédie sur le foot, enquête criminelle, obèse mis au régime, couple de beauf avec mec odieux et meuf maso. La chienne se love contre son ventre et ronfle. Vernon pensait qu'il allait devoir l'enfermer dans une chambre pour éviter qu'elle lui casse les couilles, mais en fait elle ne pense qu'à dormir. Il recommence à la caresser, en se promettant de la descendre, mais sans être convaincu qu'il le fera. En cherchant à comprendre où brancher son iPod sur l'ampli, il met en marche la radio. La voix d'Alex en remplit la pièce. « Et si je dors entre tes bras ?» C'est qu'une autre que toi n'a pas voulu de moi. » Il chantait volontiers des conneries sadiques, faisait son Gainsbourg pour midinette. Les enceintes déversent dans le salon ce son de basse, souple, aquatique, notes slapées qui s'arrondissent en bulles, empruntées à la funk, mais salies par des riffs aux fuses. La voix d'Alex, sur ce premier disque, est méprisante, moqueuse, agressive. Sexy, même pour les garçons. Alex ne savait pas encore qu'il s'adressait à des millions d'auditeurs. Il chantait dans sa cuisine pour faire délirer les copains. C'était un coup de génie, ce premier disque. Un grincement qui faisait mouiller les filles et donnait envie aux garçons de lui ressembler. Un gentleman retors, désinvolte et blessé. Chanson qui n'avait l'air de rien, d'une méchanceté gratuite. Ça aussi, il le perdrait en route. Avec le temps, il deviendrait un vrai dur dans la vie et un grand tendre dans ses compositions. Comment peut-on être malheureux d'autant d'attention, de voyages, de bonnes surprises et d'opportunités. C'est incompréhensible pour l'entourage. Mais après tout, Alex n'était pas la première rockstar à démolir scrupuleusement le mobilier de son château. Le mec était vraiment largué à la fin. Il est resté incapable de composer le moindre morceau pendant plus de 2 ans. Vernon n'avait pas forcément envie de saisir l'ampleur de la débâcle. A-t-il été un bon ami ? Évidemment non. Mais il lui paraissait tout à fait impossible, dans sa situation, de venir en aide à un chanteur possiblement millionnaire. Revient à sa mémoire les délires d'Alex sur la synchronisation des ondes cérébrales. Il lui avait fait un long laïus sur les hertz, gamma, alpha, bêta, une vaste cosmogonie de conneries à base de battements binauraux et de neurodynamique. Faute de pouvoir délivrer un nouveau disque, Alex s'était mis en tête de programmer les humains. Au début de la discussion, Vernon se disait pourquoi pas faire de la musique de hippie, ça le regarde, mais quand le chanteur était parti sur les pyramides d'Égypte, dont les blocs de granit auraient été bougés par le pouvoir du son, ça l'avait quand même bien alarmé. Mais il n'avait rien fait pour empêcher Alex de s'enfoncer. Disparu. Encore un. Le corps de Vernon se raidit, quelque chose gronde en lui qui le fait paniquer. La chienne pose sa tête sur sa main, d'une façon si délicate qu'il reste un moment interdit, sans oser bouger. Chaque souvenir est piégé. Une couverture qu'il avait gardée bien tirée sur l'angoisse glisse, la peau est mise en contact. Sa bulle était étanche, rassurante et bien équipée. Il vivait au formol dans un monde qui s'est écroulé, accroché à des gens qui ne sont plus là. Il pourrait traverser la planète, fumer des plantes rares, écouter des chamans, résoudre des énigmes, étudier les étoiles. Les morts ne sont plus là, ni rien de ce qui a disparu.
Voilà, c'était donc le 53e épisode de Les yeux ont des oreilles, en compagnie de Guillaume, Avril Dystopie et Nathanaël. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur nos ondes et vous souhaitons une belle journée de la radio. Nous vous retrouvons non pas dans 2 semaines mais dans quelques heures à peine pour un 2e épisode. Et n'oubliez pas que vos yeux restent à l'écoute et surtout vos oreilles.